Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
Richard Martino.
Politiquement incorrect.
Notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour rapidement et paisiblement trouver une solution. Radio.
Et qu'on est en business, hein? On sent que vraiment, là, il est en selle, il a les affaires bien en main, Justin Trudeau. Je comprends, là, que tu peux pas agir en cow-boy puis envoyer la police puis tout de suite, là. Ben, tu sais, me semble que tu dis, regardez, je vais négocier avec vous, mais pour montrer votre bonne foi, vous levez les barricades. Sinon, il n'y a pas de négociation. Vous devez faire ça. Veux dire, c'est le gouvernement qui devrait avoir le gros bout du bâton, pas les manifestants, mais ils jasent, ils aiment ça jaser, ils vont négocier, ils vont discuter, ils vont converser avec eux autres. Et ça me fait penser, petit trouble technique ici, ça me fait penser à la toune de Dalida. Alors, peux-tu mettre la toune de Dalida? Ça, c'est Justin Trudeau. Paroles. Êtes-vous vraiment surpris du manque de leadership de Justin Trudeau? Il me semble que c'était écrit dans le ciel que ce gars-là n'était pas capable de gérer des crises du genre. Je sais que c'est une crise qui n'est pas facile, mais il jase, il veut jaser. Je reviens là-dessus. Tu dis, regardez, nous autres, on est le gouvernement, on vit dans un état de droit. Il y a des lois, les lois, tout le monde doit les respecter. On est prêt à négocier avec vous, mais faites preuve de bonne foi, levez les barricades et après ça, on jasera. C'est ce que disent les leaders autochtones, hein, qui font preuve de plus grand leadership que Justin Trudeau. On va en parler, bien sûr. Il va être question de ça beaucoup dans l'émission, bien sûr. C'est quand même la grosse nouvelle. Il y a beaucoup d'argent en jeu maintenant, là, parce qu'il commence à avoir des impacts économiques très graves pour le pays. Je veux vous parler de ma chronique d'aujourd'hui dans le Journal de Montréal concernant le cours d'éthique et de culture religieuse. Vous savez que le cours a été annulé. On a tiré la plug, on l'a aboli. Jean-François Roberge m'avait dit au Franc-Tireur il y a quelque temps qu'il ne toucherait pas au cours d'éthique et de culture religieuse, puis j'étais bien déçu en disant, ben voyons donc, s'il vous plaît, tirez la plug sur ce cours-là. Il dit non, on y touchera pas. Finalement, ils sont revenus sur leur décision. Tire la plug, comme vous le savez, je sais, vous êtes triste, vous pleurez à la maison. C'est très triste que le cours d'éthique et culture religieuse n'existe plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va passer par-dessus. Moi, c'était un cours que je détestais. Et quand mon fils avait des très mauvaises notes dans ce cours-là, je le félicitais. Parce que c'est vraiment, oui, c'est parti. Le cours d'éthique et de culture religieuse est mort. Alors là, mais pour le remplacer, on va avoir des forums. Le ministère de l'éducation va organiser différents forums publics pour savoir qu'est-ce qui va remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse. Donc, voici, il y a 8 thèmes dans les forums publics. Participation citoyenne et démocratie, éducation juridique, éco-citoyenneté, éducation à la sexualité, développement de soi et des relations interpersonnelles, éthique, citoyenneté numérique et culture des sociétés. Mais ça sera pas tout en même temps, là. On va étaler ça. Mettons, ce cours-là, le nouveau cours va durer, je sais pas, mettons, la durée du cours est 5 ans. Mais tu sais, on va étaler ça, là. Ça sera pas les 8 thèmes dans la même année. Et vous écoutez Politiquement Incorrect.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
187, cube radio.
1-877-827-2346.
Politiquement incorrect.
Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, bien sûr, on va parler des impacts économiques du blocus ferroviaire.
Oui, Richard, écoute, j'ai bien aimé ta chanson ce matin, des paroles et des paroles.
Oui.
Mais là, normalement, si on discute hein, les PDG, mais là, hier, là, les PDG des grands secteurs manufacturiers sont sortis là, en conférence de presse. 21 grandes entreprises là, manufacturières au Canada, 10 PDG au Québec, puis on dit, là, ça n'a pas de bon sens, là, il faut vraiment arrêter ce blocus-là, parce que l'impact direct, là, ça va être des mises à pied qui pourraient survenir prochainement. Déjà, le CN a déjà annoncé des mises à pied, mais ce qui est plus important, là, c'est que ça touche tous les secteurs. L'agriculture, les ressources naturelles, le secteur manufacturier, là, même le commerce de détail commence à souffrir. Parce que là, tu as 4500 wagons par jour là, qui ne bougent plus.
Hey
boy. Ils sont tous bloqués à Vancouver. Puis n'oublie pas, toute la marchandise, là, c'est d'est en ouest, hein, puis aussi de l'ouest en est. Fait que tu as des gens qui veulent exporter leurs marchandises, puis ça, ils ne sont pas capables de l'envoyer sur leur marché. Puis tu as l'inverse aussi, c'est des gens qui attendent des pièces qui viennent dans leurs usines ici au Québec, puis ne sont pas capables de manufacturer. Alors, tu regardes ce matin l'exemple qu'on a dans le journal, les ambulances de Metz, qui produisent à peu près 17 ambulances là, assemblées ici au Québec pour le marché nord-américain. C'est le plus grand producteur d'ambulances au Québec. Bien là, lui, il attend des châssis qui sont actuellement dans des wagons, puis là, il ne peut pas assembler. Ça fait que là, il est en train de se dire, ben écoute, bientôt, je vais peut-être être obligé de faire des mises à pied. Donc, c'est vraiment dramatique ce qui se passe présentement. Là. Écoute, c'est 120 millions de dollars d'expédition par jour là, qui sont complètement gelés. Donc, c'est normal là, que les PDG décident de sortir là, pour demander à Trudeau de mettre fin au blocus.
Et en plus, il y a le propane. Ça nous ramène à le problème de la grève des employés là, du train. Là, puis les agriculteurs manquaient de propane. Mais c'est la même chose. Là. C'est très, très grave ce qui se passe au point de vue économique.
C'est grave. Puis le problème, c'est que la grande majorité n'ont pas d'alternative possible. Là. Il y a des fois que tu ne peux pas tout simplement pas envoyer ça par bateau ni par cargo avion. Puis l'autre chose importante, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne maintiennent plus des inventaires là, massifs pendant des mois. Puis là, il aurait pu dire pendant trois semaines, on est capable de se débrouiller. Aujourd'hui, là, l'économie, ça marche juste à temps. Tu as un peu d'inventaire, puis après ça, tu produis. Mais là, ils n'ont pas de plan B, là. Et donc, là, ça commence à toucher directement l'économie. Tu sais, en fait, l'économie, là, est prise en otage. Là.
Complètement.
Puis là, on va voir ce que va faire Trudeau demain. Là.
Boy, j'ai hâte de voir ça. Dur lendemain de veille pour Bombardier et le deal de Alstom.
Écoute, trois affaires à retenir. Là. Donc, hier, évidemment, quand il y a eu l'annonce qui était faite lundi de l'acquisition là, de par Alstom de Bombardier Transport, les bourses nord-américaines étaient fermées. Mais là, les bourses étaient ouvertes hier. Et là, le titre a chuté de 10 % en bourse de Bombardier. Donc, les investisseurs ont parlé avec leur argent hier là, en disant qu'ils n'aimaient pas le deal. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment ça qui les préoccupe. C'est le fait que maintenant, Bombardier va avoir comme une seule patte qui va être les fameux avions d'affaires, les jets d'affaires. Là. Donc, Bombardier maintient une dette d'à peu près 2,5 milliards, mais les jets d'affaires, là, cette business-là, c'est une business qui est cyclique. Donc, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Puis, il y a beaucoup de gros joueurs dans cette industrie-là. Les gens commencent à être inquiets, même pour cette division-là. Donc, on va voir ce que M. Bellemare va faire. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est quand même la sortie du premier ministre Legault hier.
Oui.
Qui, alors que le deal vient juste à peine d'être signé, il menace de façon voilée déjà à Alstom en disant ils sont bien mieux de respecter leurs engagements parce qu'il va y avoir des poursuites judiciaires monstrueuses. Écoute, le premier ministre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sortir comme
oui,
ça. Il est vraiment inquiet que les garanties qui sont écrites, là, peut-être qu'ils, dans l'avenir, ne sont peut-être pas nécessairement respectées.
Moi, ça, c'est de la musique à mes oreilles, parce qu'à un moment donné, à quoi ça sert de s'asseoir puis d'écrire des garanties s'il n'y a pas d'amende ou il n'y a pas de punition si tu ne les respectes pas? À un moment donné, il faut qu'il y ait des conséquences. Et là, il y a le maire de la Pocatière qui disait il faut que Alstom s'engage à avoir un seuil de 25 % de contrat local. Fait ici.
Ah ben, ça c'est bien important. Puis tu sais, on l'a posé cette question-là. Rappelle-toi quand la Caisse de dépôt a décidé de donner les fameux trains qu'on va avoir pour la REM à Alstom qui vont être produits en Inde. Là. Il me semble là, qu'on a l'expertise au Québec, on a tout le know-how, on a des travailleurs. Et pourtant, la caisse, à l'époque, était 30% actionnaire de Bombardier Transport. Et ils n'ont même pas réussi, à ce moment-là, à exiger que nos trains soient fabriqués ici au Québec. Or, je pense que ça va être un enjeu extrêmement important pour le gouvernement.
Tout à fait, parce que c'est bien beau là, de dire à Alstom, vous devez respecter les garanties que vous avez signées, mais il faut dire ça aussi à la caisse. C'est-à-dire que la caisse avait une participation importante dans Bombardier, puis pourtant, ça ne les a pas empêchés de se tourner vers l'Inde pour commander les trains du REM.
Puis là, ils vont être les premiers actionnaires d'Alstom. Là. Donc, on va voir si la caisse va avoir... le pied suffisamment pesant pour changer la situation au cours des prochaines années.
Écoute, la cordée sur la corde de raide, je parlais tantôt avec Pierre Nantel qui est ici, puis il me disait, c'est quand même assez, il y a une coïncidence ironique, là, comme quoi les scouts aux États-Unis font faillite, puis la cordée aussi fait faillite, parce que tu sais, quand t'es scout, moi j'étais scout, quand t'es scout, on allait chercher tout notre stock à la cordée, là, régulièrement.
Moi, je me rappelle, Richard, la première fois que j'ai été me chercher des souliers de marche en montagne, c'est sur la rue Sainte-Catherine dans l'Est. Je me rappelle de la boutique de la cordée. C'est là que les Québécois découvraient, dans le fond, le plein air, toutes les activités extérieures, ben, etc.
C'est ça, Yves. C'est qu'à l'époque, il était tout seul. T'avais rien qu'un endroit. Si tu voulais avoir du stock de plein air, c'était la cordée. Aujourd'hui, il y a de la compétition.
Ah ben c'est incroyable, je te nomme, regarde, les trois grands groupes, le Canadian Tire, qui a tout acheté Sport Expert, qui a acheté Hockey Rousseau, qui a acheté Atmosphère. Aujourd'hui, c'est devenu un gros joueur dans le secteur du plein air. Au Québec, on a quand même un groupe québécois là, qui s'appelle Sportium, là, avec Sail. Donc, tu as quand même des grands groupes québécois qui se sont créés. Mais tu as quand même des petits joueurs comme la Cordée. Puis récemment, tu as entendu parler de la restructuration chez Mountain Equipment, là, qu'on appelle la MEC, là,
oui.
Qui eux autres aussi souffrent là, parce que ces grands-là, le Kent Tire, Sportium et d'autres, il y a quand même une consolidation dans le marché. Parce que c'est quand même un marché énorme encore. Il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup et qui dépensent beaucoup pour le plein air. Et donc, c'est vraiment désolant de voir une petite marque québécoise disparaître.
Mais tu sais ce qu'on dit des requins. Hein? Les requins doivent tout le temps nager parce que quand ils arrêtent de nager, ils meurent. Mais c'est exactement ça. Les entreprises, maintenant, il faut que tout le temps que tu sois là. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers puis dire, hey, tu nous autres, on est les numéro un. C'est impossible parce que la compétition, eux autres, sont rapides. Donc, ils ont manqué de ça. Là. Ils ont manqué de rapidité.
Oui, et je pense que tu peux avoir des magasins très nichés, là, tu sais, très pointus, qui vont vendre sur le web et sur Internet, puis parce qu'ils sont très, très pointus. La cordée est comme dans le milieu, dans une zone grise où ils veulent être dans le grand marché, mais ils n'ont pas les moyens d'être là.
Malheureusement, donc, la cordée sur la corde raide. Merci beaucoup, Yves Daou. On va continuer à lire la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée.
Au plaisir.
Fait que là, il y a vraiment des impacts économiques. Et comme disait Yves Daou, habituellement, les chefs d'entreprise en sont très discrets, ne se mêlent pas des affaires de la politique, que ce soit provinciale ou fédérale. Mais là, ils disent, à un moment donné, assez, c'est assez, faut agir.
Politiquement incorrect.
À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
Salut Richard.
Salut Jean-François.
On revient sur la question des blocus ferroviaires. Le problème reste entier ce matin alors que les conséquences économiques commencent à s'accumuler. Il y a de plus en plus d'impatience.
Ben oui, de l'impatience parce qu'il y a un manque total de leadership. Là, tout ce qu'il y a à dire, là, Justin Trudeau, c'est on va discuter, on va négocier, on va parler, on va jaser. Mais tu sais, comme disait le grand philosophe, puis je pense que c'est un philosophe que tu connais bien, Elvis Presley, il y avait une chanson... Il y avait une chanson qui était « A little less conversation, a little more action ». Et je pense que là, il faut penser à Elvis un peu aujourd'hui. Là. Genre, arrête de jaser à un moment donné, puis mets tes culottes. Et il y a une affaire que je ne comprends pas, Jean-François, là-dedans. C'est que, bien sûr, que tu peux pas envoyer la police comme ça, bon, comme le veulent les conservateurs. Sauf que, quand tu négocies, il faut toujours que tu gardes ouverte l'option d'utiliser la force. C'est ça qui te donne un pouvoir de négociation. Quand le gouvernement négocie avec les employés du secteur public qui sont en grève, ils disent « on va jaser, on va discuter, mais si ça fonctionne pas, il va avoir une loi spéciale ». Quand un gouvernement arrive avec un projet de loi, ils disent à l'opposition, on va jaser, on va négocier, mais si ça fonctionne pas, il y a la menace du baillon. Il faut que tu aies ça. Mais là, dès le départ, Justin Trudeau a dit, il est hors de question qu'on utilise la force. Il a complètement oublié ça. Fait que, tu sais, il faut que tu aies la carotte puis le bâton, mais lui, il dit, il va avoir rien de la carotte. Alors là, c'est qui a le gros bout du bâton? C'est pas le gouvernement.
Donc, on n'a pas de levier, dans le fond.
C'est ça, t'as pas de levier, comme disent les Anglais, du leverage, là. Il devrait dire, regardez, pour faire preuve de bonne foi, lever les barricades et après ça, on négociera. Et c'est ce que disent les leaders autochtones. En fait, les leaders autochtones, ils font preuve davantage de leadership que Justin Trudeau. Et là, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, les autochtones de Wet'suwet'en, ils sont victimes du colonialisme. Et le conseil de bande qui est élu démocratiquement et qui représente les résidents de Wet'suwet'en, eux autres, ils sont pour le projet. Ce sont les chefs héréditaires qui sont contre, mais les chefs héréditaires ne sont pas élus. Regarde, Jean-François, au Canada, le chef de l'État, c'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Mais les décisions sont prises par qui? Les décisions sont prises par le Parlement. Pourquoi? Parce que c'est une institution démocratique. Donc, c'est le conseil de banque qu'il faut écouter. C'est pas les chefs héréditaires. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Mais bref, il y a un manque total de leadership. Ça prend seulement quelques dizaines de personnes pour mettre le pays à genoux. Et ils jasent. Puis là, la rencontre va peut-être avoir lieu dans un mois, on dit. Là.
Je dis, ben oui.
Ça n'a aucun maudit bon sens.
Ben, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir encore plus de pression aujourd'hui. Les premiers ministres des provinces ont un appel conférence. Il y a de l'impatience. Il y a des lettres ouvertes de tous les milieux de l'économie canadienne.
Ben oui, mais ils
beaucoup de pression.
Ils connaissent leur Elvis. C'est ça?
C'est ça. Tout vient Elvis.
Oui.
Au fédéral, le processus de nomination des juges est biaisé.
Alors là, Justin Trudeau, lorsqu'il a pris le pouvoir, il dit, nous autres, on ne sera pas là, comme les conservateurs. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Canada. On est pour la transparence. Puis vous allez voir ça, les conservateurs, lorsqu'ils nommaient les juges, ils y allaient, c'était biaisé. Hein? C'était partisan. Ils nommaient des juges qui étaient près du Parti conservateur. Nous autres, on ne fera pas ça. On va vraiment les nommer au mérite. Alors là, le Globe and Mail, une grosse enquête du Globe and Mail qui dit, non. Finalement, hein, le roi est mort, vive le roi. Ils font exactement comme faisaient les conservateurs. Ça nous rappelle Bastarache, hein? Ici, au Québec, le Parti libéral de Jean Charest, là, qui mettait des post-it à côté des noms des juges, des avocats qui pouvaient être nommés juges. Si tu étais proche du Parti libéral québécois, tu avais plus de chances. C'est exactement ce qu'ils font. Si tu partages l'idéologie du Parti libéral de Justin Trudeau, si tu participes à des événements bénéfices qui rapportent de l'argent au Parti libéral de Justin Trudeau, on va soudainement considérer là, ton dossier, puis tu as plus de chances d'être nommé juge que quelqu'un qui est loin du Parti libéral. Bref, encore une fois, Justin, il jase, il parle, mais les bottines ne suivent pas les babines, et on le voit, là, il va être dans l'eau chaude. Pas une très, très bonne semaine, pas un très bon mois, en fait, pour Justin Trudeau.
Ouais, c'est... il navigue en eau trouble, disons, par
tout
les temps
fait,
qui courent.
Tout à fait.
Je pensais jamais que tu me parlerais de la philosophie d'Elvis Presley.
A little more action. A little less conversation, a little more action.
Salut, Richard.
Salut.
Bonne journée.
Bonne journée.
Politiquement incorrect.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Ça fait longtemps que je lui avais pas parlé, je m'ennuyais. Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado, j'en parle souvent parce que c'est excellent. Les idées mènent le monde, des longues conversations avec des intellectuels qui ont des choses à dire, qui ont un angle inédit sur certaines situations. Mathieu, t'es avec nous. Salut Mathieu.
Bonjour.
Écoute, bien sûr, faut revenir sur le manque total de leadership de Justin Trudeau. Toi, Mathieu, est-ce que toi, t'es un gars de parole, t'es un gars qui aime discuter, t'es un gars qui aime... Bon, est-ce que, j'imagine, t'es pas pour l'envoi là, de l'armée puis de la police tout de suite, là?
Non, ben là, il y a toute une série d'éléments dans cette affaire-là. C'est-à-dire, le premier, c'est la solution policière, disons ça comme ça. Elle pouvait être envisagée probablement les premiers jours. C'est-à-dire, il y a des gens qui bloquent la voie ferrée. C'est pas encore devenu un problème national. C'est pas encore devenu un problème pan-canadien. Bon, ben alors là, il y a des gens qui bloquent la voie ferrée, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient nationalistes québécois, qu'ils soient militants, j'en sais rien, moi, LGBT, qu'ils soient écolos, qu'ils soient... Qu'importe, vous bloquez pas la voie ferrée. plusieurs journées plus tard, eh bien là, on sait que s'il y a la solution et la solution des premiers jours, si on l'appliquait aujourd'hui, ça crée 20 crises d'Oka à la grandeur du Canada. Ça me semble assez évident dans les circonstances. Donc là, on est dans cette espèce de situation où le gouvernement, par son incurie des premiers jours, par son impuissance des premiers jours, a laissé développer une crise qui est de moins en moins gérable, de moins en moins maîtrisable. Autre élément qui s'ajoute à ça, le premier ministre, lorsqu'il prend la parole, il revient de sa tournée où il cherche à gagner un siège pour devenir un jour prix Nobel, il fait cette espèce de tournée, il revient, et qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on va appeler autrefois des paroles verbales, hein, c'est-à-dire une espèce de déclaration pontifiante, sermonneuse. Il dit rien. De l'autre côté, les conservateurs décident, parce que c'est l'avantage de l'opposition, disent, nous, on est des durs de durs, on est des vrais policiers. Et là, mieux que tout, Justin Trudeau dit, vous, je vous parle plus. Donc, Justin Trudeau est prêt à parler avec ceux qui bloquent la voie ferroviaire, les chemins de fer, mais il n'accepte plus de parler à son opposition, qui défend une position qui, qu'on l'accepte ou non, est quand même une position qui est théoriquement tenable, c'est-à-dire la défense de la légalité. Donc, on est dans une espèce d'immense foutoir, et à travers tout cela, ce qui serait révèle, me semble-t-il, c'est le manque de leadership effrayant de Justin Trudeau. Cet homme-là, je l'ai souvent dit, c'est comme la reine d'Angleterre. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il est bon pour parader, il est bon pour faire des discours pontifiants, mais ses discours ne sont rien d'autre que le masque de son impuissance.
Exactement, parce que ce qui arrive, là, toi puis moi, ça me surprend pas du tout. Là. Ça me surprend pas. C'est ça, Justin, selon moi.
Oui, ben en fait, il n'a jamais été que cela, c'est ça le problème. On cherche la crise où Justin Trudeau aurait fait preuve de grandeur politique. On cherche le moment, on nous dit, oui, c'est un prof de théâtre, il n'était pas fait pour devenir premier ministre. Non, moi je crois qu'en démocratie, il peut y avoir des transfigurations. Occuper la fonction, ça peut transformer un homme. Prenez l'exemple de François Legault. Ça lui a pris du temps à sortir de son rôle de comptable pugnace, disons ça comme ça, et là... Il est devenu premier ministre, il est devenu chef national. Quelque chose s'est opéré, une transfiguration. Justin Trudeau est premier ministre depuis quelques années déjà, depuis 2015, et il n'est jamais devenu, il est devenu éternellement, depuis toujours, cette espèce de gamin égaré en politique, le fils de son père qui n'existe que par son nom de famille, sur le fond des choses, qui tire sa légitimité de sa filiation. Alors, de ce point de vue, on cherche encore le moment où il est devenu premier ministre. Il ne l'est pas devenu. Puis qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, le Canada est gouverné dans les circonstances à la fois par les structures de pouvoir du Parti libéral, par les sites de haute fonction publique, par la bourgeoisie de Toronto, les puissances pétrolières de l'Ouest, et à travers ça, le premier ministre absent qui sert simplement à parader.
Écoute, tu parlais de son père. Tu sais, son père, là, on se souvient de son fameux « Just Watch Me ». Il niaisait pas son père, là. Niaisé avec les souverainistes québécois, là. À un moment donné, il a mis ses culottes et tout ça, qu'on soit pour ou contre. Mais, tu sais, Just Watch Me en disant, moi, je jaserai pas. Moi, agir. Mais, justement, Justin n'est pas le fils de son père.
Non, ben ça, alors comme je viens de dire, ça c'est le point, sa seule qualité, mais ça fait en sachant qui était le père, mais cela dit, moi je crois, et ça c'est une conviction, j'ai rien pour l'étayer sinon que des intuitions et quelques analyses, si c'était des nationalistes québécois qui causaient des problèmes comme ceux-là, je suis persuadé que Justin Trudeau se découvrirait soudainement courage et force pour en finir avec eux. Il userait de la force nécessaire pour en finir avec ces nationalistes qui troublent l'ordre du pays. Parce que, il faut le dire, dans son esprit, et c'est là la grande contradiction de Justin Trudeau, il s'est fait élire avec ses discours sur la réconciliation, sur des premiers peuples, sur des premières nations. On comprend l'intention généreuse. Mais d'autre côté, le Canada est un État pétrolier. C'est aussi un État de droit, accessoirement, où normalement, tout le monde devrait respecter la loi. Et là, il est pris dans ses contradictions. Et c'est l'espèce de, vous savez, c'est l'espèce de progressisme qui se fait toujours déborder sur sa gauche. C'est-à-dire, le progressiste se croit immaculé, dénonce tout ce qui n'est pas lui, comme la droite, le conservatisme, l'intolérance et tout ça. Et un jour, il est débordé sur sa gauche et il se découvre dans le rôle du conservateur, de l'institution, du gardien de l'ordre. Et là, il déteste se voir dans ce rôle inattendu parce qu'il n'a plus la conscience immaculée, parce qu'il n'est plus la présence virginale et nobilisable dans notre vie publique. Et là, Justin Trudeau doit donc agir en premier ministre, c'est-à-dire prendre des décisions dures, des décisions sévères, des décisions difficiles.
Mais c'est-tu, Mathieu, c'est-tu ça qui me fait penser? La mère de Caillou. Tu sais, Caillou, il arrive, là, il rouvre un sac de farine, il te sac ça dans le salon, ben reine, puis tu sais, puis elle est là, « Oh, Caillou, mon petit coquin! »
Non, mais c'est la figure de l'autorité faible, c'est la figure de la dissolution d'autorité, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste, d'un côté, comme je le dis, à faire des grands discours pontifiants, et mieux encore, les seuls avec qui il a été ferme en ce moment, je l'ai dit tantôt, parce que ça me semble important, les seuls avec qui Justin Trudeau a été ferme dans ses discours jusqu'à présent, ce sont les conservateurs. L'opposition officielle. On peut être en désaccord profond avec la position des conservateurs. Ils représentent néanmoins, qu'on ne se trompe pas, un segment très important de l'opinion publique. Mais que fait-il dans les circonstances? Il est faible avec ceux qui sont dans la logique du blocage, du blocus, et il est très, très dur envers son opposition officielle au point de vouloir l'exclure de la conversation démocratique. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. Justin Trudeau, on l'a toujours dit, n'était pas fait pour le rôle qu'il occupe en ce moment. Et là, les circonstances viennent donner raison à tous ceux qui étaient sceptiques.
Écoute, au Canada, il y a deux niveaux de pouvoir. Il y a la reine d'Angleterre, qui est le chef d'État. Hein. Les gens pensent que le chef d'État, c'est le premier ministre. Absolument pas, c'est la reine d'Angleterre. Mais il y a le Parlement. Les décisions les décisions du Canada sont prises par le Parlement. Pourquoi? Parce que c'est une institution qui représente le peuple. C'est une institution démocratique. La même chose pour les communautés autochtones. Tu as les chefs héréditaires qui règnent par le droit du sang, qui ont été comme nommés, mais je veux dire, les décisions, ça devrait être prises par le conseil de bande, qui eux autres, c'est une institution démocratique, qui sont élus. Et le conseil de bande, dans cette situation-là, pour la bande de Wet'suwet'en, il était pour le projet de gazoduc.
Et là, c'est là qu'on tombe sur la question très très épineuse de la gouvernance autochtone.
Ben oui.
C'est-à-dire que les conseils de bande, c'est pas la structure, soyons honnêtes, élus, c'est pas la structure, je dirais, la plus transparente démocratiquement de l'histoire de notre civilisation. Disons ça comme ça, poli. il y aurait de bonnes questions à se poser sur les... De l'autre côté, l'idée d'un leadership et d'un pouvoir héréditaire, eh bien, mais il y a quelque chose qui heurte mentalement l'idée démocratique là-dedans.
Comme
une forme de légitimité concurrente et tout ça. Donc, et là, et surtout, le gouvernement ne sait pas comment réagir devant ça. Parce que négocier avec les populations amérindiennes, négocier avec les différents groupes qui les composent, on ne sait jamais avec qui exactement on doit négocier. On ne sait jamais quelle frange plus traditionnaliste, plus radicale, va décider de faire sécession, de faire dissidence, de rompre, de s'opposer au gouvernement. Et puisqu'on est dans une époque, il faut bien le dire, là, moi, je ne conteste pas un instant l'idée que la situation des Amérindiens au Canada, c'est une forme de tiers-monde intérieur. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une situation scandaleuse. Il n'en demeure pas moins que sur le plan symbolique, sur le plan moral, sur le plan politique, il y a une forme de complaisance envers tous les discours qui proviennent des milieux amérindiens, quelquefois même les plus radicaux. Exemple, ce discours absolument insensé sur les territoires non cédés, qu'on nous répète sans arrêt.
Oui.
Comme c'est fondamentalement, après 4 siècles en Amérique et presque plus que ça, les Européens, comme on les appelait autrefois, étaient illégitimes. Ils retournaient chez eux. Vous êtes illégitimes ici. Vous devez vous incliner, tout ça. Non, un instant, là, il y a quand même des limites à réécrire l'histoire comme ça. À ce compte-là, est-ce qu'il faut renvoyer les Romains de la Gaule et ainsi de suite? À un moment donné, le réel a ses droits. Donc, il y a une légitimité indéniable des revendications autochtones aujourd'hui, mais on est prêt, au nom de la légitimité de ces revendications-là, on est prêt à tout accepter, même des discours très radicaux. Parmi ceux-là, justement, l'idée du territoire non cédé. Parmi ceux-là, cette idée que la moindre revendication qui vient de ces milieux, on doit nécessairement s'incliner même devant les plus radicaux, parce que sans ça, on serait un méchant néocolonialiste blanc patriote ou quelque chose comme ça, on peut mélanger ces termes-là en faisant shuffle, finalement on trouve toujours une insulte qui traîne à gauche. Donc devant tout cela, eh bien on est un peu désarmé moralement parce qu'on ne croit pas à notre propre légitimité d'agir en fonction de l'intérêt général canadien dans ce cas-là. Et moi ce que je note là-dedans, c'est que c'est facile de tenir des discours complaisants, hein, c'est-à-dire on se donne la bonne position, on se met au-dessus de la mêlée, on se fait très gentil. Je trouve derrière ça, simplement j'y reviens, c'est l'impuissance. On devrait être capable de reconnaître la légitimité des nations amérindiennes, reconnaître la légitimité de certaines de leurs revendications, dire qu'elles ne sont pas toutes légitimes, qu'on est capable de discuter sans avoir à s'incliner au nom d'un sentiment de mauvaise conscience ou de pénitence. Sans ça, ça nous condamne à l'inaction.
Tout à fait. Je te donne un avant-goût de ma chronique de demain, Mathieu. On aime les Autochtones, mais il ne faut pas qu'ils se développent économiquement. Il ne faut pas qu'ils participent là, à des projets, des méga-projets, et qu'ils peuvent avoir des retombées économiques. On les aime pauvres. On les aime dépendants. on les aime quasiment qu'ils vivent dans des tipis. Tu sais, il y a un côté aussi, là, tu sais, quand on voyage à l'étranger, on va en Amérique du Sud, là, on veut pas voir des Mexicains, des Sud-Américains qui se promènent en Ford puis qui mangent au McDo comme nous autres. Non, on veut les voir quasiment vivant dans des huttes parce que ça nous donne un sentiment d'authenticité, tu sais. Il y a un peu ça, là. Parce qu'il y a 20 conseils de banque qui sont pour là, les gazoducs, puis toute la petite gang de McGill qui sont sortis pour bloquer la rue Sherbrooke, eux autres, ils appuient ceux qui sont contre le développement économique, parce que ça, c'est les bons Indiens.
Je suis toujours amusé, je suis toujours très amusé quand des gens de McGill nous disent dénoncer des institutions coloniales. Mais, OK, faut-il abolir leur propre université qui nous le disent? Alors, franchement, ça m'intéresserait de savoir. Mais McGill, français, on a déjà parlé de ça. Mais non, cela dit, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Comme quoi, on a une forme de discours par rapport aux Amérindiens, aux Autochtones, où on leur dit, en gros, on les aime à la manière des témoins de la civilisation non-occidentale, du monde pré-occidental en Amérique. Les témoins de l'authenticité, les témoins d'un autre rapport à la nature. Et on les veut dans ce rôle. Je pense pas que les gens aiment les voir pauvres, mais à tout le moins, ils aiment les voir sous le signe de l'altérité radicale. Et me semble-t-il que tout le défi pour les nations autochtones, c'est de conjuguer la fidélité à leur tradition, leur identité, c'est très bien, et l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler, pas l'entrée, parce que plusieurs d'entre elles, l'entrée dans la modernité a lieu, mais je dirais se réconcilier la fidélité aux traditions, aux identités, avec les codes du monde moderne, les codes du développement dans le monde moderne, l'État a un rôle à jouer là-dedans pour leur donner les infrastructures nécessaires pour leur donner les moyens de se développer, mais il y a aussi cette idée que de notre côté, on doit cesser d'avoir une forme de discours complaisant pour une forme de misère qui est vue comme une forme supérieure d'authenticité. Ça, moi, ça me semble évident, mais c'est la question la plus épineuse qui soit, parce qu'on touche à cette question-là, puis là, on va tomber sur un type de la Gazette dont le nom m'échappe, qui traitait ceux qui remettaient en question la légitimité des barrages de suprémacistes blancs. Bon, suprémacistes
bon,
blancs,
ça y est.
Non, mais ça, c'est formidable, ça. C'est insulte là qui est pour moi la marque des incultes hargneux. On l'utilise régulièrement dans ce débat pour faire le procès de toute défense de l'état de droit dans sa forme la plus élémentaire. Mais encore une fois, il faut enlever ce brouillard idéologique pour regarder cette question avec le plus de lucidité possible. C'est pas facile, mais c'est pourtant nécessaire.
Mais merci beaucoup de lutter justement contre le brouillard et de défendre la raison dans un monde qui en manque de plus en plus. Merci Mathieu.
Merci infiniment, au revoir.
Mathieu Bock, côté.
Politiquement incorrect.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
La déclaration du premier ministre est une rejet totale de responsabilité et un échec de leadership.
Je peux comprendre que le premier ministre ne veuille pas négocier sur la place publique. OK, mais tu convoques pas le Parlement pour faire une adresse ministérielle si tu n'as rien à dire.
Notre gouvernement travaille fort pour trouver une solution.
Alors, chaque semaine, nous parlons de la politique fédérale avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, je pensais que tu allais annuler notre rencontre d'aujourd'hui parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur la scène fédérale ces temps-ci, tu trouves pas?
Mais le gouvernement ne fait pas grand-chose, mais il se passe quelque chose pareil. T'sais? quel effondrement, je pense, de la part du gouvernement Trudeau dans la dernière semaine. Je me faisais la réflexion ce matin, c'est comme si des fois les astres s'alignent. Au moment même où M. Trudeau essaie de convaincre la planète que son gouvernement, son pays, mérite un siège à la table des grands au Conseil de sécurité parce que le Canada est capable d'agir pour dénouer des grandes crises internationales, c'est quand même là, au Conseil de sécurité des Nations unies, que le grand leadership politique des plus petites nations est supposé s'exprimer, et ça inclut de faire preuve de créativité et d'innovation pour régler des conflits. Mais il est confronté ici au Canada à un conflit où il est incapable de faire preuve d'innovation, de créativité et pour trouver une impasse. Alors, c'est comme si la crise qui sévit au Canada en ce moment est en train de miner tout l'argumentaire que présente M. Trudeau à la face du monde sur la force de son leadership comme premier ministre, tu sais.
Tout à fait, tout à fait. En même temps, à sa décharge, là, mettons-le. OK, je vais me faire l'avocat du diable. C'est une situation extrêmement complexe. Tu fais quoi? Ouais. Est-ce que la solution des conservateurs, on a à voir la police, puis tout ça, c'est un peu simpliste, là.
Non, moi, je pense que ça, c'est complètement ridicule, là. Pourquoi? Parce qu'on est rendu dans un stade dans cette crise-là où, finalement, c'est sûr que c'est une petite minorité qui bloque les routes, qui bloque les rails de chemin de fer. Certains, oui, dans le mouvement, sont instrumentalisés par certains environnementalistes, etc. Mais sur le fond, c'est comme si ce blocus qui venait d'un enjeu très précis est venu à incarner le ras-le-bol collectif là, des Premières Nations face aux phrases creuses et aux promesses qui sont jamais remplies. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on envoie les forces de l'ordre, c'est comme si on jette l'allumette dans le feu pour mobiliser encore plus ceux qui, pour l'instant, font pas partie du blocus. Il y a un leader autochtone qui faisait remarquer que 50 % de leur population a moins de 30 ans. Combien ont pas d'emploi, cherchent des perspectives? Et là, finalement, est-ce que tu veux donner une excuse à cette jeunesse autochtone qui est plus mobilisée, plus éduquée aussi, plus organisée pour finalement se coaliser autour d'une grande révolution? Moi, je suis de ceux qui craignent qu'une intervention musclée des forces policières mènerait à ça. On n'aurait pas deux au cas, là, à Belleville, en Ontario, puis à Kahnawake, là, on en aurait 50 au pays, il y aurait un risque de chaos. Je pense que M. Trudeau a raison là-dessus. Là.
Mais en même temps, Emmanuel, qui parle au nom des gens de Wet'suwet'en? Est-ce que c'est les chefs héréditaires qui ne sont pas élus et qui sont contre le projet de gazoduc, ou c'est le conseil de bande qui est élu et qui est pour? C'est qui parle?
C'est les deux. On en parlait la semaine dernière. Le fond du problème là-dedans, c'est que la Cour suprême a reconnu une part d'autorité au chef héréditaire et a reconnu que l'autorité des conseils de bande est limitée, si on veut, là, au territoire de leur réserve. Alors, il y a une double juridiction là-dedans. La preuve, c'est... Puis là, tu vas me dire, ben comment on fait pour réconcilier ça? Ça ne tient pas la route, etc. Dans les années 80, au début des années 2000, le gouvernement chrétien, à l'époque, avait signé un gros traité avec la nation Nisga en Colombie-Britannique, qui a un système parallèle comme ça, qui pose problème sérieusement, on s'entend, et où, finalement, on avait convenu que dans l'architecture de leur autodétermination et de leur gouvernance propre, que les chefs héréditaires joueraient un peu comme l'espèce de rôle de Sénat, tu comprends? Et par rapport aux chefs élus. Donc, on a trouvé une formule pour accommoder les deux. Et je pense qu'à terme, on ne pourra pas régler la crise précise en Colombie-Britannique sans résoudre une partie de ce dilemme-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas monolithique non plus. Il y a beaucoup de gens dans cette communauté-là qui appuient la revendication des chefs autochtones, mais qui comprennent que leur conseil de bande a signé des accords. Parce que le conseil de bande, il y a sa réserve, il y a ses jeunes, il faut qu'ils trouvent des jobs, ils n'ont pas le même mandat moral. Alors, c'est pas une dichotomie si claire que ça, là. Mais le fond du problème, là, c'est que ce problème-là chez les Wet'suwet'en, il date de 2014, là. Tu sais, dans les applications, dans tout le processus de révision environnementale et d'approbation de ce projet-là, c'était clair que les chefs héréditaires étaient contre. Et même les rapports d'évaluation provinciaux sur le projet notent que ça va poser problème, qu'ils sont contre, mais que finalement les incitatifs économiques sont importants, etc. Alors, c'est une gangrène là qui dure depuis des années.
Écoute, Emmanuel, je te mets là, je vais te mettre dans une position inconfortable, tu vas être fâché contre moi, mais mettons t'es Justin Trudeau, mettons là, tu fais quoi?
Mettons, je suis Justin Trudeau, je fais quoi? Ben, la première chose que j'aurais fait hier, par ailleurs, là, c'est que j'aurais expliqué aux Canadiens, j'aurais accouché d'un plan plus important que celui d'espérer que ma ministre des Relations couronne autochtone finisse un jour par être invitée à rencontrer les chefs. Est-ce que tu peux, par exemple, nommer un ancien juge de la Cour suprême ou un des plus grands juristes autochtones au pays comme médiateur dans cette crise-là? Est-ce que tu peux reconnaître que le gouvernement évalue comment les alternatives pour le transport ferroviaire? Est-ce que tu peux au moins dénoncer ou affirmer que le droit de manifester au Canada n'est pas un droit à enfreindre la loi et qu'il y a quelque chose d'illégal là-dedans qu'il faut trouver. Je veux dire, il faut dire les choses à un moment donné. Et je pense que ça, déjà, aurait contribué à rassurer les gens. Je veux dire, c'est comme si M. Trudeau veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut une résolution rapide, sans blesser personne et sans affrontement. Tu peux pas avoir les deux là-dedans. Moi, je pense que objectivement, il faut réussir à scinder le problème en bouchées que tu peux avaler d'une certaine façon. Là. La priorité, là, c'est pas de régler le problème de gouvernance autour de cet oléoduc-là. Ça, c'est la fin, là. Ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps. La priorité, objectivement, c'est de convaincre les Mohawks de lever leur barricade à Belleville, puis enfin à Kanawha.
Ben oui, ben de dire, regarde, faites preuve, on va discuter, faites preuve de bonne foi, montrez que vous voulez discuter de bonne foi, levez les barricades, ce serait un signe de bonne foi, et après ça, on va discuter avec vous. Mais il n'est même pas allé jusque-là. Puis écoute, Emmanuel, avant de partir, je veux absolument parler de ça, parce que tous les spots, tous les projecteurs, avec raison, sont sur le gouvernement libéral et le Parti libéral de Justin Trudeau. Les conservateurs, là, puis Peter McKay, s'en sortent pas tellement mieux de cette crise-là, là.
Hier, Monsieur Scheer a raté une très belle occasion de faire preuve de leadership. Et Monsieur McKay aussi, parce que Monsieur McKay, moi, je vois ses fils, puis c'est illégal, comme ancien procureur de la couronne, je mettrai un terme à tout ceci. C'est comme si tout d'un coup, là, on met, tu sais, il y avait une solution facile, c'était d'envoyer la police et de mettre tous les manifestants autochtones dans le même panier, là, en disant que ce sont tous des radicaux instrumentalisés par les éco-terroristes, là, tu sais, quasiment, là. Moi, je pense qu'ils ont raté une occasion de montrer qu'il y avait une alternative au discours de M. Trudeau là-dessus, qu'il y avait il aurait pu offrir un plan. Il faut que le gouvernement s'assoie et fasse une priorité de régler les droits, de clarifier la situation sur les Nations Unies, la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Il y a plein de choses que le gouvernement peut faire qui sont constructives et qui sont capables de montrer qu'il y a une voie plus stricte qui est dans le cadre de leur approche intellectuelle et idéologique face à la question autochtone, mais qu'ils ont une ouverture à ces enjeux-là. Parce que à terme, plus les conservateurs sont dans la logique simpliste que t'envoies la police qui tire dans le tas, plus ils se retranchent derrière les murs d'une base militante à laquelle ne s'identifie pas la majorité de la population. Et je pense que cette crise-là aussi est en train d'illustrer les limites du Parti conservateur.
Tout à fait.
Tout comme elle illustre les limites du leadership de M. Trudeau.
Tout à fait. Et tu dis aussi que les Premières Nations devraient saisir cette opportunité-là pour régler leurs problèmes de gouvernance.
Ben moi, c'est ce que j'ai saisi hier, par ailleurs, dans le point de presse vraiment intéressant des leaders autochtones. Bon, il y avait le grand chef Simon, le grand chef Norton de Kanawake puis de Kanisatake, mais il y avait aussi le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui est très militant, on comprend pourquoi. Et lui-même a dit, il faut que le peuple Wet'suwet'en finisse par s'entendre. C'est comme si lui-même a reconnu que, et il a voulu envoyer ce signal-là, que les Premières Nations ont une responsabilité importante dans le fait de régler leurs problèmes de gouvernance. Regarde ce que le gouvernement Legault a été capable de négocier avec les CRI. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'entente, la Grande Alliance Développement Ferroviaire qui a été signée lundi, c'est une belle victoire, mais il marche dans les traces de Bernard Landry, là.
Ben oui.
Et objectivement, les CRI sont maintenant, ils ont l'autodétermination,
ben oui.
Ils ont le contrôle de leur territoire, ils ont une forme de souveraineté, OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont... C'est pas une question qu'ils ont fait des compromis, c'est une question qu'ils se sont armés d'une vision, ils se sont entendus entre eux et ils ont négocié avec le gouvernement du Québec. Non, on a une vraie négociation nation à nation. Si tu veux résoudre le problème, il faut que chacune des nations autochtones fasse ces devoirs-là. Et je pense que plusieurs voient dans cette crise-là un message pour les Premières Nations de dire, regardez, on a l'attention du pays. Est-ce qu'on peut faire nos devoirs, nous aussi, et saisir cette main qui nous est tendue?
Ben oui, parce qu'il faut que le gouvernement sache à qui il s'adresse. Là, il faut qu'à un moment donné, la nation avec qui tu veux négocier, ben, fasse bloc autour d'une proposition là, qui ne chicane pas entre eux autres.
Oui, c'est ça. Et je pense que, et moi, j'ai cru percevoir ça dans le discours des leaders autochtones hier. Et c'est l'espoir du gouvernement Trudeau aussi. Que ça amène une réflexion plus large à terme. Mais tu vois, c'est comme si on a tous les éléments du puzzle pour régler le problème à plus long terme. Mais le gouvernement est incapable de formuler une offre politique pour régler le problème à plus court terme. Et c'est là qu'il y a un problème majeur. Moi, je pense que ça aurait commencé par expliquer aux Canadiens, vous savez que cette semaine, mon gouvernement allait déposer le projet de loi pour ratifier et mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle est prête, cette loi. J'ai besoin de vous comme partenaire. Mais pour pouvoir avancer là-dessus, parce que c'est difficile, on a besoin que l'économie reprenne. Là, on s'entend-tu qu'on a un discours? Au moins, on a quelqu'un qui a l'air de... Tu vas me dire, oui. Ça va pas convaincre les chefs autochtones en Colombie-Britannique d'élever leur blocus, là. Je veux bien. Mais lui, il faut qu'il ait l'air de savoir où il s'en va. Et en ce moment, on ne sent pas ça de sa part.
Mais tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Très intéressant, Emmanuel Latraverse. Et on continue, bien sûr, à t'entendre et à te regarder à LCN. Merci, Emmanuel.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
Je veux vous parler de l'affaire Griveaux qui secoue la France actuellement. Certaines personnes parlent de l'affaire Grivois. Le jeu de mots est facile, mais incontournable. Ben, ça pose d'excellentes questions. Benjamin Griveaux, il est candidat à la mairie de Paris pour La République en marche, le parti, le mouvement de Emmanuel Macron. Et là, bon, Griveaux, vous savez que Mme Hidalgo, qui est maire de Paris, on ne dit pas mairesse en France, on dit maire de Paris, elle est très, très, très contestée. Il y a des gens qui disent qu'elle n'aime pas les automobilistes. Elle veut transformer Paris en ville piétonne. L'été passé, j'étais à Paris. Tous les chauffeurs de taxi chialaient contre elle. Tous les chauffeurs d'autobus chialaient contre elle. Tous les automobilistes voulaient s'en débarrasser. Donc, Benjamin Griveaux arrive, se présente contre Mme Hidalgo. Il y avait bien des chances de devenir maire de Paris. Il a dû renoncer à sa candidature. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo de lui qui a circulé sur Internet où il est en train de se masturber devant son écran d'ordinateur. Là. Je pense qu'il a fait appel au service d'une webcam, une webgirl là, qui apparaît sur ton ordinateur. Puis là, tu te pognes le whiz et tout ça. Il pensait que ça resterait entre lui et elle. Ben non, ça a été rendu public. Et là, soudainement, il a dû renoncer à sa candidature de maire. Et... Riss, vous connaissez Riss, c'est lui qui est rédacteur en chef de Charlie Hebdo qui a écrit un éditorial, mais je dois vous en lire des extraits. C'est un éditorial extraordinaire. Je vais vous en lire un extrait. De longs extraits. Aujourd'hui, une personnalité publique ne peut plus avoir de vie privée. C'est fini. Un homme ou une femme qui décide de s'engager au service de l'intérêt général doit savoir que, à partir de la seconde où il fait ce choix, il entre en politique comme on entre au monastère. Et comme les prêtres, il devra faire vœu de chasteté, de fidélité, de pureté et de bien d'autres choses encore. La jouissance des plaisirs de la vie par un homme politique doit être la plus faible possible. Il ne doit pas trop manger, ne doit pas posséder trop de biens et ne doit pas jouir du sexe inconsidérément. La politique fonctionne désormais comme la religion et les personnalités politiques doivent se comporter comme des ecclésiastiques. Et là, je vais vous lire un extrait qui est très drôle. Nous voulons des hommes et des femmes politiques qui se touchent la bite et le clito. Nous voulons des êtres humains faits de chair et de sang, traversés par des désirs et des fantasmes, qui aiment jouir de leur corps et des plaisirs de la vie. Nous voulons des personnalités politiques qui bandent, qui mouillent et qui jouissent, et qui donc nous ressemble, pauvres créatures terrestres que nous sommes. Nous ne voulons pas de ces fanatiques mystiques qui se prennent pour des dieux qui n'existent pas et qui veulent nous imposer leur obsession de pureté irréelle et tragique. Nous ne voulons pas de leur tristesse et du dégoût qu'ils ont de leur propre vie. Nous préférons les hommes politiques hypocrites qui se touchent la bite aux sincères fascistes qui regardent dans nos slips pour juger ce qui s'y passe. My God, c'est jouissif ce texte-là. My God, que je le signerais. C'est tellement vrai. Je dis pas là que c'était une preuve de jugement extraordinaire de se pogner le zizi devant l'ordinateur. Là. Je pense pas que c'est une preuve de jugement fantastique. Mais peut-être que le gars, M. Griveaux, aurait été un excellent maire de mon... Savez-vous que Churchill était sous le trois quarts du temps? Il prenait de l'opium. C'était quelqu'un qui a, quasiment, t'sais, qui a participé à sauver l'Europe. À l'époque, c'était des gens hors de l'ordinaire qui se lançaient en politique et on commençait pas à surveiller qui baisait, qui y baisait pas. C'était là, on est rendu que même la politique française... Et Dieu sait que la politique française, là, hein, en France, si t'es un politicien puis t'as pas de maîtresse, t'es un loser, là, vraiment. Si t'es fidèle à ta femme, les gens rient de toi, là. Vraiment, tu sais, c'était connu, là, Mitterrand avait une maîtresse, il a même eu une fille illégitime que tous les journalistes connaissaient, savaient c'était qui, mais n'en parlaient pas. Parce qu'en France, c'était comme ça. On disait, écoute, là, on s'en fout de la vie privée des gens. Et là, soudainement, depuis quelque temps, les Français commencent à être contaminés par ce virus qui vient des États-Unis, qui est la rectitude politique. Puis là, ils veulent des saints. Maintenant, là, en disant, il s'est touché la bite, il ne peut pas être maire de Paris. Et c'était quoi? Il y avait François Hollande, que moi, je trouvais ça tellement cute. François Hollande, qui avait une maîtresse, là, qui était amoureux d'une actrice, puis il fuyait ses gardes du corps, puis il montait sur son scooter, puis il traversait Paris sur son scooter pour aller rencontrer sa blonde, sa nouvelle amoureuse, comme un petit jeune de 20 ans là, qui était en amour, là, comme un amour d'été, là, puis tout ça. Là. Puis ça, il était président de la République, puis il traversait Paris sur son scooter pour voir sa blonde. C'est pas cute, c'est pas beau. C'est ça, un être humain aussi. On est imparfait, on est tous imparfaits. T'sais, et là, on veut des gens qui sont désincarnés. C'est complètement fou. Les problèmes d'alcool d'un tel, puis les problèmes de jeu d'un tel, puis les problèmes de cul d'une autre affaire. Puis t'es-tu bon pour faire la job ou pas? On s'en fout. Il fut un temps où c'était ça, mais maintenant, on va dans la chambre. Puis cette obsession de la transparence où tout le monde se check, tout le monde se surveille, puis là, on va sortir tes péchés sur Internet, et là, la meute va se mettre après toi, puis tout ça. Pensez-vous que vous êtes meilleur que tout le monde? Les gens, là, les social justice warriors là, qui sortent là, des scandales, pensez-vous que vous êtes meilleur que tout le monde? Vous vous touchez, vous autres aussi, le Wheezy. Puis vous avez, vous trompez des fois votre chum ou votre blonde. Vous allez parfois dans des bars de danseuses, vous prenez des fois de la coke. Vous, voyons donc, je dis pas que tout le monde fait ça, là, mais il y en a, là, voyons donc. Et même si on savait s'il y avait un politicien, par exemple, là, qui de temps en temps prenait une ligne, là, sniffait une ligne de temps en temps. Ben oui, c'est illégal puis tout ça. Y es-tu bon ou y es-tu pas bon comme politicien? Mais là, c'est rendu, on est fou, là. On est rendu dans un désir de pureté qui, selon moi, est extrêmement dangereux. Et j'adore le texte de Risse. Donc, nous voulons des politiciens qui bandent, qui mouillent et qui jouissent. Et nous préférons les hommes politiques hypocrites qui se touchent la bite aux sincères fascistes qui regardent dans nos slips pour juger ce qui s'y passe. C'est de la musique à mes oreilles. Savez-vous que Justin, s'il y a de la misère à trancher, c'est peut-être à cause de l'astrologie, Fred? Tu me disais ça tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec l'astrologie?
Tu y crois ou pas, là?
Ben non.
C'est le Mercure qui est rétrograde. Lorsque Mercure est rétrograde, les gens ont de la difficulté à prendre des décisions et il y a une mauvaise ambiance. Tu sais, ça se bouscule, ça se chicane, ça se bataille. Et c'est d'ailleurs l'astrologue Ginette Blais qui collabore ici, qui a fait un livre sur le phénomène de Mercure qui influence pas mal tout le monde dans une année. Et là, présentement, on est dans une période où Mercure rétrograde fort.
OK, puis là, quand Mercure rétrograde, on prend pas de décision.
Ouais. On en prend des mauvaises, en général. Peut-être, c'est ça.
C'est quoi le signe astrologique de... On va aller voir son horoscope, tiens, dans le journal.
Justin, c'est quoi son signe?
C'est quoi son signe?
On trouve ça. Lisons l'astrologie. Ça peut régler même des problèmes, parce que tu sais que M. Péladeau, ici, à l'époque, M. Pierre Péladeau avait son astrologue avant de prendre des décisions, faisait toujours appel à son astrologue.
Mais tu sais, j'ai un ami, moi, puis c'était son oncle qui faisait l'horoscope dans un journal, puis le bonhomme, il se levait, puis il disait, il écrivait n'importe quoi, là, il se levait, puis il disait, bah, aujourd'hui, puis tu sais, tu y vas avec des phrases creuses, et tout le monde lit son horoscope en disant, ah oui, c'est moi, ça, ça me parle. Tu sais, genre, vous avez des problèmes d'argent.
Justin.
Qui n'a pas de problème d'argent? Ou ça va mal, tu sais, vous avez peut-être des problèmes. Parlez davantage à votre compagne. Tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Là, c'est des généralités. Justin, il est quoi?
Capricorne.
Capricorne. Okay.
La Capricorne aujourd'hui, s'il vous plaît.
Capricorne aujourd'hui.
Ouais.
Tout semble jouer pour vous en ce moment.
Non.
Pas bonne ligne. Ça, c'est qui? Ça, c'est Marie-Hélène Meunier là, qui est dans le...
Ginette est dans le métro, entre autres, dans le journal.
Tout semble jouer pour vous en ce moment. Ben oui, profitez-en pour taquiner la chance. Taquiner la chance. Ce travail est sous pour Justin.
Ah ben, il travaille toujours.
Vous c'est cumulez...
Jour et nuit.
Vous cumulez les succès dans vos occupations. Marie-Hélène Meunier, là... Transactions et signatures vous rempliront les poches.
Notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour rapidement et paisiblement trouver une solution.
Ben c'est ça, c'est la question d'argent, peut-être, là.
Ben,
on interprète, là.
Amour et amitié, ça, si on veut qu'il y ait une vie
amoureuse. Ça ne doit pas être fort de ce temps-là.
Vous brillerez de vos mille feux lors de vos réunions d'amis. En amour, votre pouvoir de séduction est très fort.
En Iran, oui. Il a brillé de mille feux en Iran avec ses amis.
Moi, c'est quoi, aujourd'hui?
Là, c'est quoi?
Moi, je suis lion, je le vois pas.
Ah, pas de
lion, redoublé de vigilance au volant. Et restez loin des mauvais conducteurs. Mais ben là, il n'est. Je suis certain qu'il faut que tu restes loin des mauvais conducteurs. Travail et sous, certains projets sont bien brouillons. Évitez de vous laisser embarquer dans des entreprises ou des affaires mal conçues.
C'est ça, tout c'est, croche. Ça devrait être l'horoscope de Justin, ça.
Ben oui.
Ça va pas bien, là.
Ben oui, en tout cas, bref.
On va commencer l'émission maintenant avec
parce
toujours...
Parce que Mercure...
Rétrograde.
Rétrograde. Est-ce que tu penses que Justin est un politicien qui bande et qui mouille, comme Rhys les veut? Je sais pas. Je pose la question. Je pense que oui, là-dessus. Il a l'air tout à fait
comblé. Il a l'air pas parfait.
Il a l'air comblé. Il a l'air pas parfait là-dessus. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Politiquement Incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle... Il a préféré animer Politiquement Incorrect.
Cube Radio.
On va parler dans quelques secondes, sinon dans quelques minutes, avec Luc La Liberté, parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté de la politique américaine. Mais la semaine prochaine, je vais être en relâche. C'est la relâche de mon fils. Alors, je prends une semaine de congé. Mais l'émission sera bien pilotée par quelqu'un qui va être bien en selle, Pierre Nantel, qui est là. Salut, Pierre.
Salut, Richard.
Merci beaucoup de prendre le contrôle de l'émission la semaine prochaine. Écoute, j'espère que d'ici là, la crise autochtone va être réglée. Puis tu va pouvoir parler d'autres sujets.
Écoute, ce qui est très clair, en tout cas, c'est qu'on peut se questionner comment ça se fait qu'aujourd'hui, on découvre ce poteau rose là, de la Nation Wet'suwet'en, des chefs héréditaires, comment ça se fait qu'alors qu'il y a deux ministres qui s'occupent précisément de la question des Autochtones à Ottawa, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un potentiel d'inflammation totale.
T'as raison, parce que moi, bien humblement, je connaissais pas l'existence des chefs héréditaires. J'avais aucune idée.
Imagine, moi, j'ai été député pendant 8 ans là-bas. J'ai découvert la question autochtone que j'ignorais ou qu'en tout cas que je supposais certainement. Et même avec mon engagement sincère envers les Premières Nations, j'ai même ajouté à mon serment de député que j'allais assumer, tu sais, en respect avec la reine et tout ça. Mais j'ai ajouté et je le ferai en respectant les traités avec les Premières Nations. J'ai ajouté ça dans mon serment officiel. Roméo Saganache, Georgina Jolibois puis Nikki Ashton l'ont ajouté elles aussi. Alors, il y a 4 députés dans la Chambre de communes en 2015 qui ont ajouté ça à leur serment. Malgré cet intérêt, malgré ma proximité et l'amour sincère que j'ai pour Roméo Saganache, je ne connaissais pas cette subtilité-là. Alors, comment expliquer que quelque chose d'aussi grave surgisse comme ça, out of the blue, alors que c'est si important, puis que t'as deux ministres, où êtes-vous? Où étiez-vous il y a 10 jours?
Et leur job, c'est ça, c'est de prévoir ce genre d'affaires-là.
Attends, on parle de réconciliation.
Là, tu le sais que si tu as un projet de gazoduc, tu sais bien que les nations autochtones vont se lever, puis ça va réagir.
C'est pas d'hier qu'il y a un problème avec le tracé de ce pipeline-là. Même il y a des tracés, on voyait dans le Journal de Montréal, je pense, hier, qu'il y avait un tracé alternatif qui avait été proposé, puis qui était rejeté par la compagnie. Parce que ça coûtait un peu plus cher, parce que ça traversait, je sais pas, quelques rivières. C'est sûr que c'est très important. Tant mieux s'il y a un souci de sécurité environnementale. Mais au niveau du coût, je peux te dire qu'on a déjà dépassé le surplus de coût Rien qu'un coup pour tous les Canadiens, pour tous les Québécois.
Tout à fait raison. Donc, les gens s'ennuieront pas avec toi la semaine prochaine. Faut pas que tu sois trop bon. C'est ça l'affaire. Quand tu te fais remplacer,
bon père, par exemple.
Il faut pas que tu sois trop bon parce que là, les gens s'ennuieront pas de moi. Non, non, mais écoute, t'es excellent, Pierre. Ça va être bien le fun.
Ben, merci.
Je vais essayer de t'écouter peut-être même.
Non. Il faut que tu décroches.
Je décroche. Merci beaucoup, Pierre Nantel. Donc, à partir de lundi, il va être là toute la semaine prochaine. On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut, Luc.
Oui, bonjour, Richard.
Hey, Mini-Mike, ça va bien pour Mini-Mike?
Écoute, ça va être particulièrement intéressant. Moi qui commençais à me lasser un peu des débats démocrates, parce qu'on en a eu plusieurs, puis ils n'étaient pas tous particulièrement relevés. Ce soir, la présence de Mini-Mike, ben ça risque. Il va être, écoute, c'est comme l'expression consacrée le dit, ce sera sa fête ce soir. Donc, il est la cible de ceux qui tentent de demeurer, de prouver qu'il demeure pertinent. Et si je suis Joe Biden, ben la personne qui me dérange le plus sur mon terrain actuellement, c'est Mike Bloomberg. Puis on peut penser qu'un représentant du 1%, ben Bernie Sanders ne devrait pas manquer une opportunité de le pousser dans le coin à l'occasion.
Oui, c'est ça. Il y a des démocrates qui disent qu'ils sont mal à l'aise qu'un très, très riche multimilliardaire se présente. Mais en même temps, Luc, il faut dire que les Américains n'ont pas le même rapport que nous avec l'argent. Par exemple, quand Pierre-Carl Péladeau s'est lancé en politique, il y a des gens qui avaient un malaise avec ça en disant un millionnaire en politique. On est, tu sais, nous autres, avec l'argent, là, on est catholiques, hein? On le dit, là, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Ça, c'est le catholicisme. Aux États-Unis, ils sont protestants. Puis le protestantisme, c'est si t'es riche, c'est parce que Dieu t'aime beaucoup, puis t'as réussi. Ils n'ont pas le même rapport avec la réussite financière.
Oui, puis pour plusieurs, Michael Bloomberg, malgré le fait qu'il soit un milliardaire, c'est un peu l'antithèse de Donald Trump. M. Trump, on le sait, sa réputation comme homme d'affaires, ben, c'était toujours un peu trouble. On se voit toujours dans des trucs qui étaient plus ou moins clairs, plus ou moins nets. De ce côté-là, Michael Bloomberg peut dire, écoutez, non seulement je vaux beaucoup plus, mais j'ai largement mérité tout ça au sens où j'ai joué à la régulière et je me suis imposé par mon talent. Donc, il peut toujours faire valoir ça. Et pour plusieurs Américains, ben effectivement, c'est une allusion très claire à une forme de réussite. En même temps, ce que disent une partie des Américains qui réagissent à ça, puis c'est quand même une question qu'il faut se poser. Il n'y a rien qui empêche un milliardaire de déposer sa candidature. Et ça prend d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'argent pour être élu aux États-Unis.
Ben oui.
Mais faut-il désormais être milliardaire? Parce qu'on aura cette fois-là Donald Trump d'un côté et, s'il devait s'imposer, ben Michael Bloomberg de l'autre.
Alors là, les démocrates s'en vont vers une tempête politique. D'ailleurs, es-tu dans une tempête, toi, Luc? On entend vanter beaucoup.
Les conditions sont un peu particulières. J'ai réussi à me glisser entre deux rendez-vous pour m'assurer de discuter avec toi, mais c'est pas idéal.
OK. Écoute, oui, ben tu sais, il y a personne de tout nu qui se lance à la présidence des États-Unis. Ils sont tous très riches, là.
Oui, oui. C'est soit on est riche, soit, puis ça, chez les démocrates, on est toujours pris avec le même programme. Des gens comme Pete Buttigieg, par exemple, avaient des revenus plus modestes, même s'il a déjà travaillé pour une grande firme de conseil. Mais en même temps, ces donateurs, ils sont particulièrement généreux. Même Elizabeth Warren, qui est pourtant progressiste, puis qui dénonce l'arrivée dans la course de Michael Bloomberg, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour de grandes firmes. Et si on voulait imposer un test de pureté financière à tout le monde, ça devient très, très, très complexe à gérer. Même Bernie Sanders, depuis la publication de ses livres, il est entré dans le groupe des millionnaires. Donc, on a à gérer ça, mais la politique américaine, c'est un sport qui est particulièrement coûteux. Et beaucoup de candidats ont pris la peine de dire, ça prend de l'argent. Même les progressistes ont dit, écoutez, Michael Bloomberg, moi, tant et aussi longtemps que l'argent qu'il a et qu'il peut mettre plus de zéros sur un chèque que moi, mais qu'il met ça dans une bonne cause, il est le bienvenu.
Mais en tout cas, c'est ce soir, donc c'est à quelle heure le débat, ce soir?
Donc ce soir, moi je commence à me préparer autour de 20h, 21h, ça va débattre farouchement. C'est intéressant parce que, je répète, M. Bloomberg, c'est la première fois qu'il est là. Il n'a pas la réputation d'être un très, très bon débatteur. Puis en plus, ben, son nom n'est pas sur les bulletins samedi au Nevada, qui est la prochaine étape des caucus et des primaires. Okay. On ne va le voir que le 3 mars. Mais je répète, c'est une très, très belle occasion, un, pour lui de se faire connaître, de voir comment les gens vont réagir à son style, mais surtout pour ses adversaires de faire la démonstration que, malgré l'arrivée d'une grosse pointure, d'une candidature prestigieuse, ils ont encore leur place dans la course.
Merci beaucoup. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. On s'en reparlera la semaine prochaine. Je te laisse à ton rendez-vous, Luc. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Merci.
Bye,
salut. Pierre, est-ce que tu suis ça, la politique américaine? Penses-tu que les démocrates... Parce que moi, écoute, si les démocrates vont au bat, là, contre Donald Trump avec Bernie Sanders...
Mm-hmm.
Bernie Sanders, c'est la gauche de la gauche.
Oui, c'est sûr.
C'est comme...
Mais je dirais qu'à moi que ce pourquoi M. Trump aujourd'hui est président des États-Unis, c'est parce que les démocrates ont été un peu chochottes. Ils ont joué safe avec Hillary Clinton. Ils n'ont pas dit « Ah, alors Bernie Sanders, c'est trop. » Alors que là, ils risquent de susciter, de fouetter les troupes. Si tu as un cas comme Bernie Sanders, tu risques de susciter beaucoup d'enthousiasme chez les grands militants. C'est chez ceux qui font les appels, ceux qui donnent, ceux qui veulent se mobiliser, qui font des rallyes. Ces gens-là vont être très stimulé par l'arrivée de Bernie Sanders, qui est très inspirant parce qu'il dit toujours, depuis longtemps, cette même vision d'une autre type d'Amérique, d'une Amérique qui aurait, par exemple, l'assurance maladie.
C'est comme le Donald Trump de gauche, c'est-à-dire que Donald Trump, il n'est pas vraiment un républicain. Donald Trump, c'est pas un républicain. Il s'est accroché au Parti républicain, mais tu sais, il s'en fout du Parti républicain. Ouais. Et Bernie Sanders, je pense, et j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu qu'il n'a même pas sa carte de membre du Parti démocrate. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quelqu'un qui s'identifie pas au Parti démocrate. Et là, tu sais, donc, c'est deux outsiders.
Oui, ben, puis d'ailleurs, c'est drôle que tu décrives ça comme deux outsiders, parce que Bloomberg, finalement, il est vraiment au milieu. Hein? Il est à la fois à gauche, à la fois à droite. Il fait partie de cette droite économique, mais de la gauche sociale. Il a quand même challengé beaucoup de choses et reconnu beaucoup d'erreurs dans sa mairie de la ville de New York. Alors, c'est vraiment fascinant ce qui se passe ici.
Mais j'aime ton analyse. C'est intéressant de se dire, s'ils vont avec quelqu'un de safe, non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec quelqu'un qui soit aussi surprenant, pour aussi weirdo que Donald Trump.
Mais c'est ça.
Pour lui donner le change.
Mais c'est parce que, ultimement, moi, je peux dire en tout cas que les élections, c'est beaucoup une histoire de stimuler ceux qui ont envie de s'impliquer dans une campagne. Si tu veux gagner une élection, il faut que la machine électorale fonctionne. Pour que la machine électorale fonctionne, qu'elle appelle les gens qui peuvent te soutenir, ça te prend des bénévoles. Alors, si ton chef ou ta chef ne stimule pas, ne motive pas l'élan bénévolat, l'élan d'implication, ça se peut que tu ne puisses pas aller faire le plein du vote que tu mériterais. Alors, c'est là que l'arrivée de Bernie Sanders est intéressante. Et sa remontée actuellement est surprenante, honnêtement. Là,
mais oui.
Je suis très surpris. Et la descente de Biden est exceptionnelle.
Écoute, c'est un meltdown, comme on dit. Là. Il a implosé. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On s'en va à la pause. Et tout de suite après, on reçoit Christian Dufault, comme tous les mercredis.
Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
Vous écoutez
Politiquement Incorrect.
Comme à tous les mercredis, j'ai le bonheur de jaser, de jammer avec mon ami, le politologue Christian Dufault. Salut Christian.
Bonjour Richard.
Alors, écoute, en faisant mes recherches, Charles Taylor a été payé 182 000 $ pour rédiger le rapport Bouchard-Taylor.
Qui l'a renié.
Et Gérard Bouchard a été payé 398 000 $. OK?
Ouais.
Ils ont pris l'argent, mais après ça, ils ont renié leur rapport, les deux.
Ben, c'est-à-dire
alors, ils ont signé un rapport, ils l'ont renié, mais ils ont quand même gardé l'argent.
Ben, moi, je dirais, ils ont eu le prestige aussi. Ils ont eu l'argent, mais ils ont eu le prestige. Parce que depuis le rapport Bouchard-Taylor, Gérard Bouchard, entre autres, a eu un prestige nouveau. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils aient perçu des sommes importantes. Mais comme tu le dis, ce qui me dérange, c'est que d'abord, Charles Taylor l'a renié. Là, carrément, ça, c'est totalement inadmissible. Gérard Bouchard, il ne l'a pas renié. Mais j'ai trouvé que dans le débat sur la loi sur la laïcité, je trouve qu'il y a une contribution essentiellement hargneuse et négative. Alors que le Québec essayait péniblement, comme bien les sociétés occidentales, d'essayer de se doter de normes pas parfaites, mais pour gérer ce problème épineux-là, il ne nous a pas aidés. Il est venu nous culpabiliser. Et c'est ça que je lui remets. Il n'a pas renié comme tel parce que... alors Charles Taylor, moi, à partir du moment où il l'a renié, honnêtement, Charles Taylor, que j'ai déjà connu, là, je le regrette de le dire, il n'y a plus eu aucune crédibilité pour moi. Là. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre à ce point-là, quand même.
Mais là, tu fais le tour de toutes les provinces, de toutes les régions, puis tu rencontres les gens, puis c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour ça. Tu écris un rapport, puis après ça, tu dis, mon rapport ne vaut pas de l'argent.
Et tout ça, comme je te dis, si ça avait donné une contribution positive un peu à ce débat-là, moi, je ne demandais pas que Charles Taylor ou Gérard Bouchard applaudissent à tout ce que fait Legault, mais leur comparution là, devant la commission parlementaire sur la loi sur la laïcité, c'était lamentable, je trouve. C'est comme s'il essaie de nous culpabiliser. Puis, en tout cas, moi je dois dire que ça démontre que les intellectuels, c'est bien beau, mais à un moment donné, là, c'est pas toujours ça, ils sont pas toujours fonctionnels par rapport aux problèmes réels de notre société.
C'est quoi, c'est désolé de le dire. George Orwell, il parlait de common sense.
Ouais, c'est common sense, le bon sens, le bon vieux sens. Mais tu sais, on en a parlé. C'est vrai que parfois, le bon sens, pas dans le sens démagogique, mais dans le sens commun, en fait. On dirait qu'il c'est plus là.
Mais tu sais, on veut remplacer, je reviens à ce que tu disais, on veut remplacer le cours d'éthique culture religieuse par un genre de cours d'éthique. N'est-ce pas le rôle des parents de donner?
Qu'est-ce que le gouvernement a à faire là-dedans?
On demande à l'école non seulement d'éduquer les enfants, mais on demande de les élever. Je veux dire, les élever, c'est le rôle des parents. De donner un sens de valeur, de parler d'éthique, puis tout ça. C'est toi comme père puis comme mère que tu fais ça. C'est pas l'école à faire ça.
Ben, ça va dans le sens d'une certaine déresponsabilisation des parents dans notre société. C'est le tout à l'État. Et ça, c'est le propre des sociétés françaises. Un peu. On est une société de type français. Les Français sont un peu comme ça. Et c'est clair qu'à partir du moment où on veut réaménager le cours éthique et culture religieuse, au fond, c'est la même gang qu'avant qui a tendance à revenir, tu comprends-tu, avec leur espèce de religion laïque, en définitive, où ils veulent faire de nous, puis ça, c'est dangereux, parce que moi demain, ma chronique dans la presse, c'est la liberté Foulkin. Hein, c'est ça, la liberté Foulkin, Wuhan, Benjamin Griveaux, en France, en tout cas. Mais dans un monde où de plus en plus, on est normé, puis on est contrôlé, ce cours d'éthique et culture religieuse-là, remanié, ça peut être une façon de faire que s'assurer que les gens vont être de parfaits petits citoyens modèles. Tu comprends? Oui. Qu'ils respectent les normes, ils sont écologiques, oui. Ils sont purs, ils trompent pas leurs femmes. Quelle horreur!
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Hein? On veut un monde aseptisé.
C'est ça, et c'est très dangereux. Tu l'as déjà écrit là-dessus. C'est la recette, en fait. Bon, on oublie. Je sais pas si c'est normal que les jeunes oublient ce qui est arrivé avant, là, mais ça a été essayé à plusieurs reprises. C'est tentative de réingénierie de la nature humaine. Le communisme s'en était un.
La nature humaine, elle n'est pas toujours belle. Ben, ouais. Tu sais ce qui se passe dans nos deux oreilles. C'est pas super clean. C'est pas.
L'affaire
Benjamin. On a des zones d'ombre. On a une inconscience. On a nos secrets.
Et c'est normal. Et c'est correct. Évidemment, bon, tu peux déraper. Puis tu vas agresser les autres, puis tu es le monde, puis il y a des lois pour ça. Mais on n'a pas à être parfait, moi, je suppose.
T'sais, l'industrie de la pornographie, c'est une industrie qui fait des gonzillards de dollars, puis il n'y a personne qui regarde ça. Demande à quelqu'un, tu regardes-tu de la porn? Non, je ne regarde pas. C'est qui regarde ça d'abord?
Ils devraient abolir ça, c'est tellement
irrespect. Ils font des milliards de dollars. Voyons donc, on en regarde tout.
Céline, un petit
mot. Tu me parlais de Céline. Te souviens-tu que toi et moi, on avait un projet de livre sur Céline Dion?
Ben, mon Dieu, tu me rappelles de vieux souvenirs. Ben, on avait une rencontre avec Marie-France Bazot, la petite marque. C'est drôle à quel point il y a certains souvenirs précis dont on
est allé voir un éditeur, même oui. On avait un projet de livre, toi et moi.
Et ça n'avait pas abouti. C'est Denise Bombardier qui nous a volé notre projet, Richard.
Mais c'était toi sur l'angle sociologique. Qu'est-ce que Céline Dion représentait du Québec moderne?
Ouais, c'est ça. C'est un peu une de mes fiertés pour être fort. Là, je vais me vanter pour une fois. Oui. Je pense que j'ai été le premier à écrire sérieusement sur Céline Dion comme point de référence identitaire québécois. J'avais écrit une série d'articles dans la presse. Mais t'es fait beaucoup écœurer, je dois dire, à cause de ça. Parce qu'on disait, écoutez, c'est pas sérieux, quelqu'un qui est censé enseigner l'ENAP, qui s'intéresse à Céline Dion. Mais j'en suis content parce que la réalité me donnait raison. Et c'est pour ça que ça m'amène, mon cher Richard, à l'intervention d'Amir Kadir. Ancien co-chef de Québec solidaire, qui voudrait que Céline Dion n'aille pas chanter en Israël cet été, parce que M. Kadir est impliqué dans les opérations de boycott d'Israël. Là, et j'ai trouvé que c'était un manque, je l'aime bien par ailleurs, Amir Kadir parfois, mais c'est un manque de jugement grossier de la part d'Amir Kadir. Le Moyen-Orient, c'est une poudrière, c'est complètement fucké depuis pratiquement un an, puis il veut que Céline s'embarque là-dedans, il veut que Céline prenne position là-dedans, mais quel manque de jugement! Ça rappelle qu'Amir Kadir, il a de belles qualités, mais il peut manquer de jugement de façon grossière.
Mais tu sais, elle...
Il faudrait qu'elle prenne position contre Israël.
Mais qu'est-ce qu'elle a à dire sur Israël?
Non, mais c'est pas sa job, là. Puis surtout, cette partie du monde, là, on s'est entendu que c'est compliqué, là. Hein? Le Moyen-Orient?
Écoute, j'aimerais rien que rappeler, je suis allé visiter Israël, en Israël, et d'ailleurs, je n'ai qu'un rêve, c'est d'y retourner, c'est un des plus beaux voyages.
Ce n'était qu'un rêve, comme dirait Céline.
C'est un peuple extraordinaire, j'ai tellement aimé les Israéliens. C'est un des seuls endroits de cette région-là où il y a un défilé de la fierté gay. Ouais. Tu sais, les gays peuvent... montrer leur homosexualité sans aucun problème. Ce n'est pas, c'est pas un crime. Tu vas pas en prison. Tu ne risques pas la peine de mort. C'est quand même un endroit. Je comprends qu'il y a des problèmes. Oui, les colonies, etc. Ben oui, mais c'est quand même un endroit.
Là-dessus, je peux te raconter une anecdote drôle parce que moi, j'étais allé à Tel Aviv, qui est une grande station balnéaire. Hein. Les gens qui sont jamais allés réalisent pas que Tel Aviv, c'est pas juste une ville. Bon. Et il y avait à l'époque un gros défilé gay. Et il y avait des gays israéliens qui m'avaient dit tout fier. Écoutez, c'est le plus gros défilé gay d'Europe. J'avais dit, vous êtes pas en Europe? Oui, il avait dit d'Europe. Donc, j'avais dit, le seul problème d'Israël, c'est qu'ils sont pas en Europe. Quelque part, tu sais, je veux dire, quelque part, c'est un pays européen, à certains égards, mais le problème, c'est qu'ils sont au Moyen-Orient. Et enfin, puis revenons à notre cher Amir Kadir, si tu veux à tout prix que Céline boycotte un pays, moi, je lui suggérerais c'est de boycotter Londres. Parce que s'il y a un pays qui est responsable historiquement du fuckage au Moyen-Orient, c'est bien l'Angleterre. Quand tu regardes l'histoire, là, ils ont posé un seul geste, bon, depuis 100 ans. Et ça, on a oublié ça. Donc, tant qu'à boycotter, il faudrait que notre chère Céline n'aille pas au Royaume-Uni.
Mais tu sais, puis la Chine.
Quand tu te mets à boycotter, tu vois plus.
La Chine qui se fout des droits humains, la Russie.
C'est ça. Quand tu te mets à ne pas à tenir compte de ça, mais il y a peu de pays qui boycotteraient. Le Tibet, je boycotterais ça parce que je n'aurais pas encouragé l'oppression chinoise sur le Tibet. Je n'aurais pas donné de concert à l'ASA. Mais on ne m'a pas demandé encore.
Pour rien, chanter à Charlemagne, finalement, là, ça commence à boycotter tout. Là. À un moment donné.
Non, c'est parce que surtout aujourd'hui où. De toute façon, Céline, elle est porteuse d'autre chose. Elle est porteuse du Québec. Elle est porteuse d'amour, de folie, de tout ce que tu veux, et qu'elle aille partout dans le monde, y compris à Pyongyang, tant qu'à être, mais pas au Tibet.
Moi, le signe de Céline de se taper le thorax, là, moi, je trouve que c'est un signe fondateur, c'est un signe important, tu sais, je suis capable, je peux le faire. Puis je trouve qu'il y a quelque chose, le Québec aussi, des fois...
Et la synthèse du vieux Québec canadien-français qu'on a tant méprisé, que beaucoup de gens méprisent encore, qui était incarné en bonne partie par sa mère, Thérèse Dion, qui est morte récemment, et le Québec moderne, elle est vraiment la jonction des deux. Parce qu'au fond, si la famille Dion avait vécu selon les nouvelles valeurs québécoises, il n'aurait pas eu de Céline, parce qu'il n'y aurait pas eu de 14 enfants, hein? C'est moi qu'on puisse dire, c'était le 14e enfant. Et la mort de Thérèse Dion récemment, moi, m'a rappelé, je le savais, mais ça m'a vraiment rappelé à quel point le succès de Céline Dion, c'est beaucoup le succès de Thérèse Dion, c'est beaucoup le Québec, le succès d'un vieux Québec canadien-français, ancré en Gaspésie, dans le territoire. Donc, c'est pas un hasard,
Et qu'on regarde des fois avec mépris, condescendance, en disant c'est la grande noirceur.
Bon, qu'on regarde.
Les gens étaient ignorants.
Comme si, qu'on regarde systématiquement avec mépris. Comme si le Québec avait commencé en 1960, comme si on n'avait pas profité du travail de nos ancêtres. Moi, là, j'ai un côté conservateur de bon aloi et je suis très conscient de ça, en fait. Le Québec n'a pas commencé en 1960. L'affirmation des femmes n'a pas commencé en 1960. C'est très prétentieux pour nos sociétés de penser que tout commence avec tout. Bon, en tout cas,
est-ce que tu vois, on jase pour jaser, est-ce que tu vois un symbole dans ce qui est arrivé à Bombardier, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où justement l'économie québécoise et tout ça, on a monté, et là, dans un contexte de mondialisation, où on doit maintenant se coltailler à des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que nous autres, finalement, c'est la réalité qui nous ramène à notre juste place. En disant, là, vous pensiez que vous pouviez être un gros player sur la scène internationale, vous êtes rien que le Québec, là.
Ouais, moi,
c'est beau d'être ambitieux, là, mais vous êtes rien que le Québec.
Oui, mais Céline, elle a conquis la planète, puis c'était juste le Québec, c'était juste la Gaspésie, Thérèse Dion. Moi, je vois dans Bombardier un échec québécois, un échec très profond, mais je l'attribue à de l'incompétence. Ils n'ont pas été assez bons. L'autre jour, j'entendais une entrevue avec M. Bellemare, au panel de Patrice Roy, et j'ai quasiment compris l'échec de Bombardier, parce que je trouvais qu'il y avait une telle insensibilité à certaines réalités politiques, intuitives. M. Bellemare n'a pas été capable de nous dire que si on lui offrait un bonus en argent, à la fin de l'opération actuelle, qu'elle allait le refuser. Il n'a pas été capable de le dire. Ah, oui. Il a dit, c'est le conseil d'administration qui décide. Comme s'il y avait un pistolet sur la tempe qui l'obligeait à accepter le 18 millions supplémentaires qu'on va peut-être lui offrir suite aux transactions avec Alstom. Puis Patrice Roy est revenu à la charge. Moi, je pensais qu'il dirait, je vais peut-être renoncer à 3-4 millions. Non, c'était une espèce de technicien et bureaucrate. Donc, moi, j'ai tendance à voir ça comme simplement, ils n'ont pas été assez bons.
C'est ça.
Parce que Céline, elle, est au sommet de la planète. Elle était assez bonne, elle. Pourquoi?
Et bon, Justin, est-ce que ça te surprend, le marasme dans lequel on est? Est-ce que tu descends, tu tombes des nues?
Ben, j'ai surtout très honte d'être Canadien ces temps-ci. Ça me surprend pas tellement de Justin Trudeau. Oui, ça me surprend un peu. En fait, au-delà du personnage de Justin Trudeau, là, de l'individu, bon, on a vu lors du dossier SNC-Lavalin ses limites là, de leader dans un contexte de crise, mais que tout le système politique canadien, comme un gros pays, le Canada, là, soit dans l'impuissance totale suite à cette affirmation d'une minorité d'Autochtones, manifestement, qui ne représente pas l'ensemble des Autochtones, qu'on soit essentiellement dans la culpabilité et dans la peur, puis qu'on fasse rien, ça, c'est comme Canadien, j'ai honte, parce que l'idée n'est pas d'envoyer des tanks d'assaut, là, puis de dire à l'armée, aux policiers, allez-y comme ça, mais c'est comme si le système était incapable de s'affirmer. Le discours de Trudeau, hier, il était emblématique d'une certaine bien-pensance, où on n'est même pas capable de dire, écoutez, là, c'est illégal, là, il faudrait que vous réagissiez parce qu'il va y avoir des conséquences, puis qu'on s'affirme un peu en termes de pouvoir. Donc moi, les bras m'entendent, mais c'est la recette pour la catastrophe de toute façon, parce que le message qu'on envoie à une minorité de gens, c'est continuer à faire du trouble, parce que de toute façon, en face, vous avez un tigre de papier, ben oui. Vous avez des gens pusillanimes, des gens qui n'ont pas de couilles, des gens... Tu comprends? Dans ce sens-là, moi, j'ai honte quelque part, puis je parle même pas de tous les problème concret.
Mais là, ça veut dire là, que les méga projets là, de développement économique, comme des gazoducs, des pipelines, ça sera plus possible, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va bloquer ça quelque part à un moment donné.
Je me demande si le Canada, comme système politique, n'a pas un peu touché sa... pas une limite, je dirais, là, mais un gros handicap. C'est bien beau les chemins de la Cour suprême qui ont reconnu les droits des Autochtones, puis les droits territoriaux, puis plus, puis plus, puis plus, puis le conseil de bande, puis les leaders anciens, etc. Ben, mais là, c'est comme si on voit ce que ça donne au fil. Ça a donné beaucoup de pouvoir, pas aux Autochtones, à une petite minorité, parfois, qui ne représente pas grand-chose, mais qui a le pouvoir de bloquer, avec l'appui d'une partie des Canadiens qui sont beaucoup dans l'écologie. Là. Donc, c'est fucké, là, vraiment. Et je vois pas... Et par rapport à cette crise-là, moi, je pense que dans une crise, il y a deux moments qui sont plus importants les uns que les autres. Il y a le tout début de la crise. Et au tout début de la crise, si on avait eu un gouvernement fonctionnel, si on avait eu un premier ministre, il y avait peut-être possibilité d'intervenir au tout début. C'est comme un feu, tu sais, un feu de forêt qui commence. Là, au tout début, l'éteindre, c'est moins compliqué. Là, maintenant, c'est comme... on peut pas, la pâte d'entrevue dentifrice est sortie du tube, là. Il faut assumer ce qu'il y a là. Donc, mais à la fin aussi, tu peux intervenir. Est-ce qu'on est rendu à la fin, on est encore dans le milieu de la crise? Dans le milieu de la crise, c'est très, très dur d'intervenir, c'est très dangereux. Au début, tu peux le faire, puis à la fin, tu peux le faire. Mais là, on est-tu à la fin?
Mais moi, ce que je comprends pas, là, c'est que quand tu négocies, je le disais tantôt, quand tu négocies, il faut toujours que tu gardes l'option que tu vas utiliser la manière forte.
Quand tu négocies pas, tu dialogues. Je m'excuse, là. Okay. Là, tu dérapes, Richard.
Tu dialogues. Pas pareil. Mais quand le gouvernement, là, mettons, il négocie avec les employés du secteur public, il dit on va jaser, on va discuter, mais si ça marche pas, il y a la loi spéciale.
Là, c'est ça.
T'sais, il faut que tu arrives avec la carotte puis le bâton. Mais là, il s'est pointé en disant c'est sûr qu'on n'en va pas parler. Je vous le dis tout de suite, là, dès le départ. Mais là,
c'est admirable. Même Yves Boisvert, dans la presse de ce matin, qui est quand même pas quelqu'un qui est anti-autochtone, dit la possibilité de faire appel à la police, à un moment donné, c'est une option. Là, ça va de soi. On n'est pas rendu là, puis on espère qu'on se rendra pas là, puis ça peut être dangereux, puis au cas, puis on peut en mettre. Là, mais il reste qu'à un moment donné, tu fais pas juste dialoguer. Là, il y a quand même une partie des gens qui sont là, qui observent pas la loi, puis sont pas tous des autochtones purs. Puis aussi, les autochtones, c'est pas juste des saints. Là. En tout cas, tu vois un peu, mais là, la culture politique canadienne n'est que dans la culpabilité, dans la repentance, et Justin Trudeau incarne ça. C'est vraiment... moi, ça m'a fait de la peine hier pour le Canada de voir le premier ministre aussi fait, puis incapable d'affirmer. Mais au moins, hier, sa job, c'est d'affirmer quelque chose.
Ça prend quelques dizaines de personnes pour mettre le pays à genoux.
C'est ça, exactement.
C'est incroyable.
Donc, tu vois à quel point on est comme des pleutres collectivement, c'est qu'on n'est même pas capable de parler. Hier, il s'est fait beaucoup accuser, j'ai pas lu tout son discours, d'être raciste, puis d'en appeler quasiment à la violence, tout ça. Mais il a juste parlé quand même, là. Il y a personne qui... En tout cas, on radote, là, mais c'est pas très, très jojo, tout ça. Heureusement qu'il y a eu au Québec, François Legault a pu annoncer l'entente avec les cris. Puis ça, j'étais content, parce que j'en ai pas assez parlé, je trouve, parce que on s'est fait beaucoup taper dessus, les Québécois, à l'époque d'Oka, et c'était dans un contexte très particulier. Hein. L'accord du lac Beach venait d'être rejeté par le Canada anglais, puis il y a eu une espèce de jeu malsain où les Autochtones ont fait la job, un fait que bien les Canadiens anglais ne voulaient pas faire pour écœurer un peu le Québec. À ce moment-là, il y a eu cette dynamique-là. Et là, c'est pas parfait, la relation du Québec historiquement avec les Autochtones, mais quiconque travaille un peu le dossier sait que Il y a eu des éléments positifs depuis la Nouvelle-France du Québec avec les Autochtones et la paix des braves. Le dossier de la baie. C'est-à-dire, il y a Robert Bourassa dans un premier temps. La première convention moderne avec les Autochtones, c'était à la baie de James. Il y a eu la paix des braves. Et ça, ça démontre. Mais là, on sait avec qui négocier. Ils sont pas en train de parler d'oppression puis d'identité.
Que les commentateurs canadiens-anglais qui disent qu'on est xénophobe, fermé, intolérant. Tu sais, regardez, on s'entend avec les communautés, les Premières Nations. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Merci. Tiens, au cours des deux prochaines semaines,
je ne serai pas là. Non,
je vais m'en
essayer de récupérer ma santé, pas mon mental, mais en tout cas, me reposer.
Okay. Repose-toi bien. Et il y en a un qui ne se reposera pas, c'est Jonathan Trudeau, parce qu'il va faire l'émission du matin demain puis après-demain.
Oui, je vais remplacer. Ben oui, j'ai appris ça tantôt. Je vais remplacer Benoît Dutrisac demain et vendredi, en plus de mon émission, de la joute, du journal. Mais il n'y a pas de problème. On est capable d'en prendre.
Tu nous parles de quoi? Écoute, c'est sûr, c'est incontournable ce qui se passe, bien sûr.
Ben absolument. On va revenir en ouverture d'émission sur ma lecture de la gestion, de la non-gestion de crise de Justin Trudeau, mais également on va avoir Pierre Dolbecq, le président de Dolbecq International, qui, lui, là, tu sais, commence à taper, ben, plus qu'à taper du pied, là, comme bien d'autres. Oui. Lui, ses clients, ils ont des containers qui s'entassent dans des ports à Halifax, à Vancouver, à Montréal. Il y a des enjeux de salubrité, des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de survie économique de certaines entreprises. La situation, elle est tellement, tellement grave. On le dit depuis quelques jours, mais chaque jour qui passe vient augmenter la gravité de cette situation-là. Et là, tu as vu le premier ministre de la Saskatchewan qui, cette année, hein?
Qu'est-ce qu'il y a
Scott Moe, le premier ministre de Saskatchewan, en ce moment, il se passe ça une année après l'autre, la présidence du Conseil de la Fédération, là, qui réunit les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Et là, hier soir, sur Twitter, le premier ministre de Saskatchewan a dit, à peu près textuellement, là, je te le traduis, « Devant le manque de leadership du gouvernement du fédéral, je convoque d'urgence une réunion téléphonique du Conseil de la Fédération demain pour que les provinces, nous, on s'occupe du problème. » Donc, et là, François Legault, j'ai vérifié avec son cabinet, lui a dit « Oui, m'être là. »
Mais quel désaveu!
C'est fou, hein? C'est fou, hein? Capable de gérer la crise de premiers canadiens, donc c'est les premiers provinciaux qui vont se réunir pour voir ce qu'eux peuvent faire de leur côté, selon le respect de leur juridiction. Donc, pathétique. Je me demande si c'est pas en train de coûter la vie à ce gouvernement-là.
C'est vrai. Est-ce qu'on peut se poser la question?
Ben, s'il y avait un chef conservateur en ce moment, m'a dire, là, on serait pas loin. On serait pas loin de ça. C'est pathétique.
Mais il serait défendu par la NPD quand même, qui penche du bord de Justin.
Ouais, mais c'est ça. Mais là, le NPD qui explique comment ça se fait que leur pendant de la Colombie-Britannique est au pouvoir avec l'aide du Parti vert et qui appuie ce projet-là de Coastal GasLink. C'est un gouvernement, Mario, on a parlé encore ce matin avec Benoît, c'est un gouvernement gauchiste, là, à la tête de la Colombie-Britannique, qui tient en place grâce à la collaboration du Parti vert et le gouvernement du NPD et du Parti vert appuient ce projet-là de Coastal GasLink. Et là, nous autres, on a Yves-François Blanchette, là, qui lui, là, il faut faire attention. Yves-François Blanchette, t'es pas supposé de représenter les Québécois, lui? Non, c'est un fouillis, là. J'ai l'impression qu'il y a juste les conservateurs qui se gouvernent. Comme du monde à Ottawa en ce moment, puis ils se font décrier par des gens. Oh, mais ils osent penser qu'il pourrait peut-être y avoir une intervention.
Écoute, le Bloc est quasiment plus à gauche que le NPD puis le Parti vert.
Oui, on a voté pour ça.
Écoute, on t'écoute Super Jonathan, monsieur Super Jonathan, qui fait plein d'affaires avec Maud. Merci beaucoup à Hugo Veilleux.
Charles. Je sais qu'on est en retard, mais c'est pas grave, c'est dans mon show que t'embarques. T'es-tu de même, toi, des fois, tu penses aux gens qui t'aiment pas, puis tu fais comme « Oh non, ils vont être tannés. » Tu sais, là, je me dis, là, demain, je vais faire les shows du Trisac, puis mon char, puis mon show, puis là, je suis comme genre « Ah, oh, pauvres autres. »
Tu penses à eux, ton cœur
les gens qui m'aiment pas. Ils vont, comme « Ah, oh, non,
ils vont t'entendre encore plus. C'est vrai. C'est joint d'être là, mon ami. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup à Fred Rioux à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.